Les infos choisies.
Chaque vendredi de 12h30 à 13h.
Sur Radio Galère à Marseille.
Et Ayoli Radio à Avignon.
Des infos.
Qui nous touchent.
Qui nous concernent.
Qui nous ressemblent.
Qui nous parlent.
Qui nous donnent de la force.
Qui nous font réagir.
C'est parti pour 30 minutes d'infos choisies. Et bonjour, très chers auditeurs et auditrices de Radio Galère. Nous sommes le vendredi 26 avril 2024. Il est 12h passées de 31 minutes. C'est l'heure des infos choisies. Et aujourd'hui, exceptionnellement, depuis deux semaines, nous diffusons Désorceler la finance. Donc en alternance entre Indirect la semaine dernière et toutes les deux semaines. Donc cette fois-ci, c'est Désorceler la finance. C'est une série de 5 podcasts pour mieux comprendre la finance et son monde. Ce glossaire a été réalisé par le laboratoire sauvage Désorceler la finance à Bruxelles et nous écoutons aujourd'hui le deuxième épisode sur la santé. Bonne écoute.
Désorceler
la
finance.
Désorceler
la
finance.
Désorceler la finance présente
une série documentaire sur le grand pouvoir des mots.
Deuxième épisode, la santé.
Entité A, au siège, je suis sur site. Entité A, au siège, attends votre signal. Je suis l'entité A. Je suis l'auditrice extra-humaine des situations spéciales de la toile de la finance. De mission en mission, je transfère mes atomes dans l'espace financiarisé et j'inspecte les anomalies. Je les audite, je les comprends, je les résous. Entité A, au siège, signal bien reçu. L'audit commence. Over.
Bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro de l'Actu Bourse, le magazine des sociétés cotées et des tendances de marché. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui sur le plateau Charlotte Grosso, responsable commerciale France et Monaco BlackRock. Bonjour Charlotte.
Bonjour Laurent.
Alors, nous sommes ensemble aujourd'hui pour parler d'un thème d'investissement qui est redevenu central. Depuis deux ans, on a reparlé de tout cet univers d'investissement en bourse.
Alors, c'est vrai Laurent qu'avec la crise Covid, on n'a jamais autant parlé du secteur de la santé. Alors, sans surprise, en 2020 et 2021, on observe que les investisseurs se sont tournés vers les valeurs gagnantes de la crise Covid, comme par exemple certains fabricants de vaccins, qui ont enregistré des performances records, à l'image de Moderna, qui a fait plus de 200% de performance en l'espace de seulement quelques mois.
Incroyable.
Et pour BlackRock, le secteur de la santé, c'est un secteur qui est porteur, qui bénéficie de vents favorables et qui surtout a le potentiel de croître le capital des investisseurs sur le long terme, à travers une grande diversité d'entreprises, de différentes thématiques aussi, qui vont bien au-delà des vaccins. À commencer par le constat simple, c'est que notre monde vieillit. En vieillissant, on consomme plus en besoin de santé. En moyenne, les dépenses de santé, elles vont doubler passé l'âge de 65 ans. Et donc, plus de personnes qui consomment plus, ça fait potentiellement des dépenses de santé qui ont une courbe exponentielle pour les prochaines années.
Je m'appelle Malika, je suis médecin, je suis pédiatre dans la santé en lutte depuis presque le début. Donc la santé en lutte, c'est un mouvement qui a commencé plutôt par... Bon, il y avait la grève des femmes. Et profitant qu'il y avait la grève de femmes et un préavis de grève, les infirmières de Bruckmann ont décidé de sortir, et surtout les infirmières des urgences ont décidé de sortir et de dire, voilà, c'est-à-dire ça, c'est nos revendications, on veut plus de temps, plus de salaire et autres. Et c'est comme ça que, peu à peu, la santé en lutte se dit, mais on a envie de regrouper ou de centrer toutes ces personnes qui montrent que dans le secteur de la santé, comme travailleuses et travailleurs de la santé, ça ne va pas. Et on essaye d'être vraiment très ample, de dire, ben, on n'est pas seulement un mouvement d'infirmières, ou de sages-femmes, ou de médecins, mais aussi nettoyeuses, personnes qui travaillent dans les laboratoires, aides auxiliaires, auxiliaires de service, personnes qui travaillent dans les maisons de repos, personnes qui travaillent dans les maisons médicales, dans les plannings familiaux, et de montrer comment la santé, c'est-à-dire le système de santé, a été vraiment tellement malmené dans les dernières années, avec des coupes budgétaires déjà depuis des années, avec une marchandisation des soins, avec une privatisation de toute une partie de la santé, et surtout de la santé publique.
Je dis souvent, on est dans un marché incroyable, le marché de la santé. On est dans un marché où, finalement, nous, on ne cherche pas de clients parce qu'il y a encore de nombreuses maladies et de nombreux patients. En cela, aidés aussi par la pollution et le vieillissement de la population, les besoins sont quasiment sans fin.
Alors c'est vrai que déjà quand on parle du secteur de la santé, on parle d'un secteur qui est absolument indispensable. L'humanité a besoin de se soigner, que l'on soit en période de récession, de forte inflation ou de forte croissance. J'ai envie de dire, la santé, c'est pas optionnel.
Donc c'est un marché qui n'a jamais décru, qui croît gentiment, je dois dire. On annonçait l'arrivée des génériques, des bouleversements énormes, ben non. C'est vrai que les prix augmentent en conséquence et parallèlement à l'offre que vous avez, mais c'est un marché qui a toujours cru. Et dans le monde d'aujourd'hui, quand on est en recherche de sens, et bien, travailler dans la santé, c'est exceptionnel. C'est une chance.
6h25. Anomalie dans la toile de la finance. Ça se passe en Belgique, à Bruxelles. C'est de là que les premiers signaux de l'anomalie surviennent. Je matérialise mes atomes à Bruxelles. Je connais bien Bruxelles. Bruxelles est une ville capitale pour le capital. J'atterris à Bruxelles, je rôde et soudain je vois.
Nous sommes à l'hôpital Bruckmann avec un groupe de travailleurs et travailleuses.
Peut-être pour situer un peu, décrire dans l'épisode ce qu'il va y avoir, l'épisode dans lequel on va intégrer ce qu'on va se raconter aujourd'hui. On a interviewé déjà Malika, vous connaissez peut-être, de la santé en lutte de l'hôpital Saint-Pierre. Un des premiers axes qu'on a, avec l'écoute des chroniques médiatiques, et puis à partir de ce que Malika nous avait déjà raconté. Et ce premier axe est autour de l'impact ou du rôle de la numérisation, du digital, des ordinateurs, des robots dans le fonctionnement de votre travail, en fait.
Voilà, moi je travaille en consultation. On est en avril 2023. Dans mon service, il y a déjà des patients qui se servent de l'intelligence artificielle. Donc il y a un programme qu'ils ont sur leur téléphone et ce programme scanne leurs yeux et il leur dit tu dois aller au docteur ou tu ne dois pas aller au docteur. Donc cette intelligence artificielle a fait de perdre le contact humain, docteur-patient. L'humain, il a disparu. Le docteur n'est pas un docteur. C'est ça aussi. Parce que le docteur, il ne va plus voir les patients, il va voir les images. C'est révoltant que l'humain disparaît de la médecine d'aujourd'hui.
Le numérique, c'est bien et c'est pas bien. Enfin, en tout cas, au niveau des urgences, avec le dossier des patients, c'est bien. Mais on se rend compte au fur et à mesure de l'usage de ce numérique, c'est qu'on devient, oui, comme vous avez dit, nous, des propres robots. Par exemple, un patient qui vient pour une douleur abdominale, il y aura des mots-clés que vous avez introduits. C'est la machine qui vous dit de faire ça, de faire ça, de faire ça, de faire ça, de faire ça. Et vous ne devez plus réfléchir. Il n'y a plus de réflexion, de bilan, d'analyse, d'expertise. Donc au bout d'un moment, est-ce qu'on doit vraiment être infirmière? Est-ce qu'on doit vraiment être médecin? Est-ce que... Puisque c'est la machine qui vous dicte les actes.
Au fait, on est des machines sur deux jambes. Je donne une procédure à mon équipe, par exemple. Ils doivent la suivre, ils ne réfléchissent pas. Ben, ils ne savent pas, ils doivent aller appeler la personne. On ne laisse pas les gens le pouvoir de s'ouvrir, d'eux-mêmes, de réfléchir d'eux-mêmes, d'essayer de trouver les solutions. On a vraiment inversé, on est passé de l'humain au robot.
En revanche, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les sociétés qui composent le secteur de la santé, elles, ce sont des sociétés cotées. Et donc, ce sont des sociétés cotées qui vont être impactées eh bien, par les décisions stratégiques de l'entreprise, la concurrence, ou même justement la capacité à innover.
Ce qui est le moteur de croissance, c'est l'innovation thérapeutique dans ce marché.
Non, mais effectivement, il y a un énorme enjeu. L'hôpital de demain, l'un des gros enjeux, c'est de faire en sorte qu'on y reste, nous, les patients, le moins longtemps possible. Et pour ça, les robots vont jouer un rôle déterminant. Des robots qui vont aider les chirurgiens à nous opérer de manière tellement fine, tellement précise, tellement peu invasive, bah, qu'on va se remettre plus facilement, qu'on va cicatriser très, très vite.
Bon, et puis on peut les utiliser aussi pour des tâches difficiles.
Voilà,
à la place des infirmières, par exemple.
Exactement. Pour les tâches pénibles, les tâches répétitives, les tâches ingrates, eh bien, on sous-traite en quelque sorte un robot et ça laisse plus de temps aux infirmières, aux aides-soignants, bah, pour faire d'autres choses et pour avoir un rapport plus qualitatif avec les patients ou en tout cas pour faire des choses qui n'ont pas forcément le temps de faire aujourd'hui.
Il ne faut pas oublier qu'on est des humains et on nous robotise, mais jusqu'à quand? Jusqu'à quand on tombe et il y en a un autre qui va prendre notre place. Donc chaque travailleur dans les services de santé, il est confronté à ça. Il aime ce qu'il fait. Il a un respect inouï pour les patients. Il va se donner à fond. Et dans un certain moment, plus tôt ou plus tard, il va tomber. Il sera oublié le lendemain qu'il est tombé malade.
On va accueillir maintenant David Murgia. Merci à David.
Bonjour tout le monde. Témoignage anonyme. Je suis infirmière. À 6h40, je suis à l'hôpital. Je commence à 7h. J'arrive à mon casier. Je me scanne. Je me change et je prends l'ascenseur. Je me scanne. Le temps de vestiaire n'est pas payé à Saint-Luc. J'arrive dans mon unité. Il est 7h du matin, j'écoute le rapport. Je commence mon tour, je me log, je me scanne. Je m'attribue mes patients, je rentre dans la chambre de mon premier patient. Je me scanne sur le smartphone, je scanne le patient, je scanne les médicaments. J'ai pas vraiment besoin de savoir ce que je lui donne parce que l'ordinateur vérifie. L'ordinateur sait. Je ne sais pas vraiment ce qu'il a reçu plus tôt, c'est l'ordinateur qui sait. C'est l'ordinateur qui m'avertit si je donne un médicament trop tôt. Je ne dois plus vraiment connaître le nom du patient. L'ordinateur sait. L'ordinateur vérifie. Je dois prendre les paramètres de mon patient. L'ordinateur me l'a dit. J'encode. J'encode les paramètres dans le smartphone. J'ai scanné le patient. L'ordinateur me dit que tout va bien. Ouf, tout va bien. Attention. Notification. J'ai oublié de vérifier l'état de conscience de mon patient. Pourtant, celui-ci sort demain. C'est l'ordinateur qui me le dit. J'encode. J'encode. L'ordinateur vérifie. Ouf, tout va bien. L'ordinateur me l'a dit. Le patient a mal. Le patient m'appelle. Je scanne le patient. J'encode l'évaluation de la douleur. Je vais chercher un Dafalgan dans la machine. Je me scanne, je me log, je scanne le patient, je scanne le médicament, je donne le médicament. Ce matin, j'ai refait les pansements du patient, j'ai vérifié la propreté, j'ai oublié de le noter dans l'ordinateur. L'ordinateur le sait. L'ordinateur a vérifié. Je n'ai pas refait de pansement parce que rien n'est encodé dans l'ordinateur. Il me dit que j'ai rien fait, mais moi je l'ai fait, c'est juste que j'ai pas eu le temps d'encoder. C'est la pause. J'ai le temps maintenant. Je prends mon smartphone. À la pause, je me log, je clique sur le patient, je clique sur l'onglet. Je clique sur le sous-onglet. Je clique sur le bon pansement. J'encode l'heure. J'évalue type de pansement, longueur, largeur de la plaie, aspect de la plaie. J'avais évalué le pansement, mais je ne l'avais pas encodé. Ce que je sais, l'ordinateur ne compte pas. Ce que j'encode compte. Je clique sur le pansement suivant. Je ne connais pas vraiment le nom du patient, mais je ne veux pas vraiment le connaître, le nom du patient. Parce que l'ordinateur le connaît, c'est ça qui compte. Je ne connais pas vraiment son traitement, mais c'est pas grave, l'ordinateur le sait. L'ordinateur me dit quoi donner au patient. L'ordinateur me dit quand le donner. La machine me délivre les médicaments à donner. L'ordinateur sait, c'est ça qui compte. L'ordinateur compte les actes. Il compte les actes et donne la cadence du travail. Le temps humain, la relation, calmer l'anxiété, rassurer, expliquer. Non, non, pas ça. C'est pas dans l'ordinateur. Rappelez-vous, c'est l'ordinateur qui compte. Je dois bien remplir l'ordinateur. C'est là-dessus que je suis évalué. C'est là-dessus que je suis surveillé. Bien faire son travail, c'est important. Je dois bien remplir l'ordinateur, car c'est ça qui compte pour le financement. Être financé, c'est ça qui est important. Dans mes chambres, le travail est fait, mais ça, c'est pas ça qui compte. C'est l'ordinateur qui compte. L'ordinateur, c'est important. D'ailleurs, il a coûté cher, le programme dans l'ordinateur. On parle de plus d'une centaine de millions. Un programme du futur, pour un hôpital du futur.
Capitale obscène, synonyme de capitale obscène, époque dans laquelle le monde est sous emprise capitaliste, emprise qui est responsable de déséquilibres environnementaux tels qu'ils entraînent une transition d'ère géologique de la Terre, âge sinistre qui élève en vertu la trivialité et l'indécence du capital.
On nous a toujours dit qu'en tant qu'infirmière, on niait son soi. On dit bien le soi niant. Mais
Ah oui, tiens.
Oui, vous l'avez jamais entendu ça.
Ça, ça doit être particulier à votre.
Oui, le soi niant. Donc on niant, on nie son soi.
Oui. Jusqu'à un certain point.
Oui, mais. Les financiers, ils ont bien compris ça. Ils ont bien compris au point qu'ils nous nient. Donc, je ne sais pas. Autant se nier, on niait notre soi. Mais là.
Pansement. Application de compresse lexicale sur les plaies du monde pour le penser. Le glossaire est une forme de pansement.
Il faut savoir qu'il existe des mots dotés d'une puissance surnaturelle. Je ne parle pas de mots comme Wingardium Leviosa, ni de Abracadabra. Je parle des mots que les anomalies combattent. Je parle de mots dont le pouvoir est défait par ces anomalies. De mots comme acheter, vendre, buy, sell, déficit, croissance, relance, privatisation, acheter à terme, vendre à découvert, flux de trésorerie disponible, tarification à l'acte, hedge, buy spot, sell short. Je parle de mots comme 5 milliards, 10, 29 923, 0,75, 3%, 439 milliards, 0, 120%. L'anomalie se propage sur la toile de la finance.
Moi, ce qui m'a choqué, et c'est la première chose qui m'a profondément choqué, c'est qu'au lieu d'avoir un responsable de service, j'étais managée par quelqu'un. J'avais l'impression d'être un produit de grand magasin. Ça participe à la déshumanisation de mon travail, qui est essentiellement un travail d'échange et profondément humain. Pascal, je travaille à Bruckmann depuis 1999. J'ai commencé avec le sida, je termine avec le Covid. Oui, c'est une réalité de la vie. Je suis infirmière en neurologie. Avant les années 2000, un hôpital public pouvait être en déficit. C'était autorisé parce que c'était un service rendu à la population. Après les années 2000, on devait être en équilibre. Et après 2010, on doit être rentable. Et c'est là que les problèmes commencent, avec une supervision importante, une analyse de la rentabilité des faits et gestes quotidiens, de la quantité de travail assumé, du calcul du nombre d'actes techniques posés en une journée, que ce soit nous, les médecins, ou d'autres personnes travaillant dans l'hôpital. Hein, c'est pour tout le monde. Hein, on est tous managés de la même manière.
Et moi, ce qui m'inquiète, c'est les RH. Avant, ils avaient un autre terme.
Les ressources humaines.
Ressources humaines maintenant, mais
c'était
avant.
Le service du personnel.
Voilà. Normalement, le service du personnel rendait service au personnel. Là, on est complètement à l'inverse.
Ce que j'aimerais bien souligner aussi, c'est que jusqu'en 2010-2011, quand on était engagé à l'hôpital, on devait en premier lieu avoir l'esprit d'équipe. Après 2011, c'était en premier lieu avoir l'esprit d'entreprise.
Ah oui,
non. Oui, oui. Oui, oui. Regardez bien. Oui.
Extractivisme sanitaire. 1. Gestion des ressources
humaines
conduisant à extraire des ressources
humaines
jusqu'à épuisement
humain.
2. Traitement
inhumain
du patient comme un gisement
humain.
3. Économie circulaire recyclant le ou la soignante
consumée, cassée, vidée
en ressources
patientes
pour l'hôpital. Dérivé vers burn-out, dépossession, libéralisme, capital obscène.
On a fait un acte de mobilisation devant la Tour des Finances. On veut un arrêt de la marchandisation des soins. Et pour nous, c'était très important de le faire là.
La toile de la finance repose sur des envoûtements qui transforment le monde en marchandises échangeables via des terminaux Bloomberg. Des envoûtements qui visent à transformer le monde. J'entends par là les molécules des corps, les plantes des forêts, les remèdes de grand-mère, les hormones du cerveau, qui visent à transformer le bonheur des gens et la santé des corps en marchandises, et les marchandises en profit, et les profits en villa détenus par les sorciers de la finance que sont les traders, les gérants de hedge funds, les banquiers. Les envoûtements de la finance mettent en branle un tas de mécanismes. Il suffit qu'un macroéconomiste dise 3% et des hôpitaux ferment à l'autre bout de l'Europe. Qu'une agence de crédit dise « à moins » avec perspective négative sur la dette souveraine et les portions de purée des vieux dans les homes sont réduites. Qu'un banquier dise « je vends » et les infirmières voient leur salaire gelé et un État fait faillite. Je perçois des symptômes de révolte, banderoles accrochées sur des nadars, pancartes brandies par des manifestantes. Je lis « Le capital a tué l'hôpital. Pas de profit sur nos vies. Du fric pour la santé publique. » Je lis encore « On nous a sacrifiés pour la rentabilité. » Je perçois que des humains risquent la paralysie s'ils persévèrent. Je perçois que certaines désorceleuses s'apprêtent à faire entorse. Elles n'imaginent pas toutes les conséquences de la congestion, ni sur leur entourage direct et indirect, ni sur les corps humains et vulnérables qu'elles désorcellent. La fracture est proche. Elles vont couper l'appendice. Elles annoncent la nécrose imminente du capital. Tumeur dans la finance. La pilule ne va plus passer. Je perçois quelque chose que je ne devrais pas percevoir. Une amputation. Une main brandit un scalpel. Je perçois une ablation.
Que l'hôpital soit accessible à tous.
Qu'on l'appelle plus entreprise déjà.
Qu'on soigne, même sans carte d'identité.
Avec des valeurs nobles, comme l'humanité, la solidarité.
Ce serait vraiment un lieu convivial dans la mesure du possible.
Avec une gratuité.
Un hôpital tourné vers les patients, où les soignants prennent le temps de parler aux patients.
Alors, je voudrais qu'il y ait de la bienveillance. J'aime bien ce mot.
Permettre au personnel de prendre le temps de s'occuper de son patient et surtout de s'occuper de son personnel. Si on ne s'occupe pas de son personnel, un patient ne sera jamais bien soigné. Et le futur, c'est penser au bien-être en priorité et avant les chiffres.
Opérer. Œuvrer à l'ablation agile et déterminée de toutes les réformes qui ont mis à mal la santé et transformé l'administration des soins en un système commercial proche du supermarché. Exemple à ne plus entendre. Opération du mois, promo au rayon chirurgie, 6 incisions pour le prix de 3. C'était le deuxième épisode du glossaire de la finance et de la sorcellerie, réalisé collectivement par le laboratoire sauvage des sorceliers de la finance, avec Marc, Rachida, Daniela et Pascal de l'hôpital Brugmann.
Merci à Malika Roulens de la Santé en lutte et à Karim Brixi. Merci à David Murgia pour l'interprétation d'un texte d'une infirmière anonyme, accompagnée à l'accordéon par Philippe Aurivel. Et aussi à Brune Campos, l'entité A du texte de Théo Bourgeron. et Gamel pour la musique.
Avec le soutien du FACR, Fonds d'aide à la création radiophonique de la Fédération Wallonie-Bruxelles, avec l'aide de la Fondation Mycelium, et en coproduction avec la CSR, dont on remercie toute l'équipe.
Entité A. Au siège, le fil a été sectionné, je répète, section du fil de la toile de la finance.
Et voilà, il est 13h, c'est la fin des infos choisies avec cette diffusion de ce podcast des ensorcelés La Frite Finance. Pour les infos agenda, vous n'aurez qu'à aller sur Mars Info Autonome qui fait son agenda. Sinon, allez voir ce qui se passe à la librairie Transit, à l'Hydromiltet, Manifesten, Ladar. Bref, il y a plein de choses à faire ce week-end. Des manifs dimanche, 14h pour la Palestine, bien sûr, comme chaque semaine. Et voilà, à la semaine prochaine. Et bientôt, l'agenda alternatif.
Les infos choisies, c'est fini pour aujourd'hui. Retrouvez-nous sur radiogalère.org.
Les infos choisies, c'est fini pour aujourd'hui. Retrouvez-nous sur radiogalère.org.
Les infos choisies, c'est fini pour aujourd'hui. Retrouvez-nous sur radiogalère.org.